Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur RFI. Géopolitique se penche cette semaine sur la crise haïtienne alors qu'approche le 15e anniversaire du tremblement de terre meurtrier qui a secoué l'île en 2010. 280 000 morts, 300 000 blessés, 1,3 million de personnes sans abri et dans la foulée, le fiasco de l'action internationale, un affaiblissement des institutions haïtiennes, une épidémie de choléra, une crise politique dont le pays peine à sortir et une mainmise grandissante des gangs armés sur le territoire national. Depuis le 1er janvier 2024, près de 4000 personnes ont été tuées, prises au piège de ces violences, dont les récits alimentent quotidiennement la presse haïtienne. Rackets, kidnappings, viols, massacres. Dernièrement, à la veille de Noël, deux journalistes ont perdu la vie lors d'une fusillade à l'hôpital général de Port-au-Prince qui venait de réouvrir ses portes après avoir été fermé en février, suite toujours à des attaques armées. Aujourd'hui, c'est vers la communauté internationale que nous allons nous tourner avec nos invités, alors qu'une force multinationale, envoyée avec l'aval des Nations Unies et pilotée par le Kenya, est arrivée en renfort sur le sol haïtien à l'été 2024. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, William O'Neill, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert des Nations Unies sur la situation en Haïti. Et en duplex de Bruxelles avec nous, Frédéric Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et chargé d'études au CETRI, le Centre Tricontinental. Les dernières évolutions de la situation en Haïti sont à suivre chaque jour sur RFI.fr. Frédéric Thomas, 15 ans après ce qu'on a appelé la République des ONG, où on a vu cet afflux massif d'aide internationale, d'aide humanitaire en Haïti, on a appris récemment que Médecins Sans Frontières se retirait d'Haïti après 30 ans d'activité dans le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire que malheureusement, que ça a été un échec. Donc, suite au sisme de 2010, le slogan était de reconstruire au mieux. Force est de reconnaître que peu a été reconstruit et de toute façon pas de manière durable. On s'est attaché aux effets qu'à l'heure actuelle a été une situation pire qu'il y a 15 ans.
William O'Neill, les chancelleries étrangères également et les Nations Unies commencent à réduire leur effectif. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'elles disparaissent complètement d'Haïti ?
Oh, c'est un risque, oui, c'est vrai, c'est grave. Les dernières semaines, surtout, on a eu des massacres à Port-au-Prince, dans la Tibonite. L'autre jour, l'attaque contre l'hôpital Bernard Meves, un hôpital très important pour les soins spécialisés en Haïti. Il a été tout à fait incendié par des gangs. Vraiment, c'est dramatique ces jours-ci. J'ai vraiment peur que l'effondrement est presque total.
Le dernier massacre d'envergure, justement, vous l'avez dit, c'était les 6 et 7 décembre dernier à Cité-Soleil, quartier de Port-au-Prince. 184 personnes, en majorité des personnes âgées, ont été tuées sur ordre d'un chef de gang, Mikanor Altes, connu sous le nom de Wamikano, qui voulait punir toutes les personnes âgées et les pratiquants vaudous qui, selon lui, seraient capables d'envoyer un mauvais sort à son fils. Il a envoyé ses sbires pour chasser ces personnes, les exécuter et brûler leurs cadavres. Un récit complètement glaçant. Écoutez la réaction du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric.
Le secrétaire général condamne fermement la violence des gangs et la perte des vies humaines qu'on a vues en Haïti. Il y a eu un événement horrifique. D'après nos informations, un gang armé aurait tué au moins 184 personnes, dont 127 hommes et femmes âgés. Et tout ça dans un quartier de Cité-Soleil, dans la capitale Port-au-Prince. Alors bien sûr, nous exprimons notre profonde sympathie, nos condoléances aux familles des victimes de cet acte horrible. Pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler le besoin pressant des États membres pour qu'ils fournissent une aide à la mission multinationale qui est en ce moment en Haïti, qui est là pour aider la police nationale d'Haïti à lutter contre la violence. Cette mission a besoin de moyens financiers et de moyens en équipement. Et aussi, en parallèle, il faut rappeler que les parties prenantes haïtiennes accélèrent le progrès dans une transition politique.
Cette année 2024 a donc été marquée par l'envoi en Haïti de la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité. 2500 policiers ou soldats emmenés par un commandement kényan devaient venir en aide à la police haïtienne, une police qui, on le rappelle, est en sous-effectif. On compte 10 000 agents à peu près pour 11 millions d'habitants dans la lutte contre les gangs armés. Finalement, c'est autour de 400 personnes seulement qui sont arrivées dans les environs de Port-au-Prince au début de l'été. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette mission à l'heure actuelle en décembre 2024, Frédéric Thomas?
Mais un bilan nul, c'est-à-dire que malheureusement le pouvoir des gangs armés s'est étendu. C'est eux qui fixent le tempo de la réalité haïtienne. La présence sur place des quelques 400 soldats kényans ne fait pas la différence et exacerbe la frustration de la population qui ne voit rien changer sinon en pire.
Est-ce qu'ils ont quand même pu mener des actions qui ont porté leurs fruits?
Alors c'est très difficile parce que ça fait l'objet d'une communication stratégique. C'est une sorte d'affaire de com' où les États-Unis, par exemple, mettent en avant les avancées sécuritaires de la lutte contre l'insécurité grâce à cette mission. Mais dans les faits, concrètement, on ne le voit pas. Mais comme ça reste la seule solution mise sur la table par la communauté internationale, on continue à, dans cette fuite en avant, à dire que ça apporte des avancées. Mais très concrètement, non.
William O'Neill, on l'a entendu dans les propos de Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il appelle à davantage de financement de cette mission multinationale d'appui à la sécurité. Est-ce que pour vous, c'est ça le problème numéro un de cette force, c'est qu'elle est sous-financée?
Oui, c'est le grand problème, parce que les pays qui ont montré un intérêt de participer à cette mission attendent qu'il y a assez d'argent pour être remboursé, parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais eux-mêmes. Et la réalité est que le fonds pour cette mission est à peine à financer. Et c'est un scandale. Le secrétaire général a dit ça il y a quelques mois, que dès qu'il y a une banqueroute ou un problème financier dans le monde, il y a des billions d'argent qui sont prêts. Mais pour Haïti, on ne parle pas beaucoup d'argent. Ça fait 600 000 millions, 700 millions. C'est rien pour les grands pays. C'est un scandale qu'on ne trouve pas l'argent nécessaire. Deuxième chose aussi, c'est le problème de trafic d'armes des États-Unis. Il faut souligner que les armes que les gangs utilisent contre la population viennent dans la quasi-totalité des États-Unis. Et le Conseil de sécurité a prononcé un embargo obligatoire contre le trafic d'armes pour Haïti et ce n'est pas implémenté. Donc il y a plusieurs aspects du problème. L'argent, manque de sanctions et manque d'embargo contre les armes, de trafic d'armes et de munitions pour les gangs en Haïti.
Comme vous parlez des armes, est-ce que cette mission d'appui à la police haïtienne ou est-ce que la police haïtienne est aussi bien équipée que ces gangs armés, William O'Neill?
Pas du tout, c'est ça le problème. La police nationale n'a pas assez d'effectifs, comme vous avez dit, et même chose pour la mission internationale, c'est à peine 20% de l'effectif. La police nationale, vous avez dit 10 000, mais vraiment, aujourd'hui, c'est plutôt 8 000. 8 000 pour une population de 11 millions, et ce n'est pas possible. Et ils n'ont pas d'hélicoptère, pas de véhicule approprié, pas de drone approprié. C'est un miracle qu'ils sont toujours là, je dis. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faute du tout, la MSS ou la police. Mais c'est un miracle qu'ils persistent. Il n'y a pas beaucoup de victoires, de petites pas, comme on a dit déjà, mais pas de grandes victoires. Mais quand même, avec l'effectif qu'ils ont, ce n'est pas réaliste d'avoir des victoires avec une force très, très faible, la force nationale et la force internationale, contre ces gangs qui sont très puissants.
Et dans ce cas, est-ce qu'on sait, Frédéric Thomas, pourquoi est-ce que ce sont des policiers kényans, il y a des Béninois aussi, il y a plusieurs nationalités différentes. Déjà, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que ce sont ces nationalités-là qui ont été choisies et pourquoi ce sont des policiers et pas des soldats, pas des militaires?
Pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est le Kenya à la tête de cette mission? Parce que c'est les seuls qui ont accepté, sous pression des États-Unis, d'y aller. Les États-Unis s'étaient tournés vers le Brésil, vers le Canada pour qu'ils prennent la tête de cette mission, mais au vu de la situation très complexe en Haïti, au vu des expériences négatives passées, aucun pays ne voulait y aller. Donc voilà, c'est le Kenya. Pourquoi c'est la police? Parce que c'est l'idée de ne pas envoyer. C'était plus facile de faire un appui de police plutôt que d'envoyer directement des militaires, donc pour remporter l'aval de la communauté internationale. Mais je pense qu'il faut venir en amont. Il n'y a pas de solution militaire ou humanitaire à la crise actuelle. La solution, elle est politique, elle est haïtienne. Et donc, on peut gonfler, augmenter le financement, envoyer plus de soldats. Ça ne va pas résoudre la crise. La crise, elle a des racines profondes qui tiennent à la fois au manque d'institutions publiques, à la dépendance du pays et à l'ingérence aussi des États-Unis. Et donc, on voit de cette mission internationale comme l'unique solution, mais c'est une fausse bonne solution qui empêche de regarder les véritables problèmes dont M. O'Neill en a cité plusieurs, l'absence de sanctions envers les personnes qui soutiennent et financent ces bandes armées et surtout l'embargo sur les armes. Les gangs, les bandes armées continuent à s'approvisionner sans problème avec des armes qui proviennent des États-Unis. On a un groupe d'experts onusiens qui suit un peu l'embargo des armes, qui ne fait que constater son échec, qui fait des demandes, il a fait au dernier rapport une cinquantaine de demandes auprès des États-Unis pour retracer les armes. Il n'a pas de réponse des États-Unis. Donc c'est là le véritable nœud du problème.
Qu'est-ce qui explique justement que les États-Unis restent silencieux sur la gestion de ces armes?
Parce que
C'est qu'elle ne sait pas faire?
Elle ne sait pas le faire, elle ne veut pas le faire, surtout que c'est dans le principe de la libre circulation des armes aux États-Unis, une absence totale de régulation qui fait qu'elle préfère fermer les yeux sur cet aspect-là pour ne pas remettre en question ce principe et se concentrer sur l'envoi d'une force multinationale, c'est-à-dire répéter les mêmes politiques de ces 30 dernières années qui ont toutes échoué.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Vous parliez il y a un instant d'un manque de sanctions. Alors on a appris récemment que le Conseil de l'Union européenne avait décidé un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'UE pour 3 chefs de gang haïtiens, Jonel Katell, Gabriel Jean-Pierre et Ferdinand Tillus. William O'Neill, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à la crise haïtienne qu'on interdise de voyager 3 chefs de gang en Europe ?
Pas réellement, c'est une bonne étape, c'est très bien, mais c'est pas assez, pas du tout, parce que les chefs de gang n'ont pas de compte bancaire en Genève ou à Paris ou à New York, ils ne voyagent pas. C'est plutôt les hommes d'affaires politiques et les oligarques, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, qui, les oligopolistes qui contrôlent l'économie haïtienne. C'est ça le problème, les liens avec les gangs et avec ces personnes-là. Et on sait qui est. Comme Frédéric vient de dire, il y a un rapport très bien fait par le panel des experts pour les sanctions. Ils ont identifié plusieurs, mais sanctionner les chefs de gang, oui, c'est bon, mais plus important de loin, c'est sanctionner aussi les politiciens et les businessmen et les femmes d'affaires qui sont derrière. On parle des hommes en cravate en Haïti, les hommes en cravate, les gangsters en cravate. C'est ça aussi un aspect du problème qu'il faut s'adresser. Aussi la corruption. La corruption, c'est terrible en Haïti. Et ça, c'est un problème de fond. C'est un problème très compliqué, mais aussi très, très grave. Et rien ne changera sans vraiment faire face au problème de la corruption.
Et bien justement, avant l'Union européenne, c'est le Canada qui a été l'un des premiers pays à prendre des sanctions contre l'élite haïtienne, les hommes en cravate, comme vous dites, en gelant notamment des avoirs toujours d'anciens ministres, d'Ariel Henry par exemple, l'ancien premier ministre qui a été remplacé en juin par Gary Conil. Est-ce que ça a eu un effet concret de sanctionner l'élite, Frédéric Thomas ?
En partie, parce que c'était un signal envoyé à l'élite haïtienne en disant que l'impunité pouvait avoir une limite. Malheureusement, c'était aussi une manière de mettre la pression sur l'ONU pour que les noms qui circulent soient repris dans la liste de sanctions. Mais à l'heure actuelle, il n'y a qu'un homme politique parmi les 7 personnes sanctionnées par l'ONU, alors qu'on sait que circulent d'autres noms, dont Michel Martelly, l'ancien président, dont Jovenel Moïse était le dauphin, l'ancien président qui a été assassiné. Michel Martelly qui se retrouve dans la liste de sanctions du Canada et des États-Unis, mais qui n'a toujours pas été arrêté, qui n'est toujours pas inquiété, alors qu'il vit aux États-Unis. Il faut savoir que sur la trentaine de noms qui se retrouvent sur la liste de sanctions du Canada, on retrouve des hommes politiques, mais aussi des hommes d'affaires. Et on voit que qu'il y a une corruption à un très haut niveau et que ces personnes-là jouissent d'une impunité de la même manière que les bandes armées. Or, les bandes armées, elles sont aussi puissantes parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien à craindre de la justice. Donc, tant qu'on n'attaquera pas ce problème de l'impunité, il est illusoire de s'attaquer aux bandes armées. Il faut d'abord lutter contre leurs sources de pouvoir. C'est les sources de leur pouvoir, il est à la fois en termes d'armes qui proviennent des États-Unis et en termes d'impunité et des liens qu'ils ont avec la classe politique et les hommes d'affaires.
Mais puisque vous dites que Martelly, par exemple, qui vit aux États-Unis, a été sanctionné mais qui n'a pas été inquiété, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas les outils pour que ces personnes soient confrontées ou répondent en tout cas de ces actes de corruption?
Non, je pense que les États-Unis, le Canada et d'autres pays sont gênés parce que ce sont leurs interlocuteurs. C'est toujours avec ces personnes-là qu'ils ont négocié, discuté, et que ça, c'est en creux, c'est reconnaître l'échec ou leur aveuglement, et aussi le fait qu'ils n'ont pas voulu se tourner vers la société civile qui avait une alternative, qui a appelé pour une transition de rupture, pour rompre avec cette impunité, et que malheureusement, ils se sont toujours adressés aux mêmes personnes, et les personnes qui se retrouvent encore aujourd'hui à la tête du pouvoir en Haïti, et qui ne rendent pas des comptes à la population haïtienne, sinon à la communauté internationale, et c'est là aussi le problème. Et donc reconnaître que ces personnes-là sont les sanctions, que tous leurs interlocuteurs sont des personnes qui financent, qui ont un lien avec les bandes armées, c'est aussi reconnaître l'échec de la diplomatie internationale de ces 20-30 dernières années.
Alors justement, en parlant de diplomatie internationale, la nouvelle demande des autorités américaines, c'est de transformer cette mission d'intervention emmenée par le Kenya, dont on parlait tout à l'heure, en opération de maintien de la paix. La question a été à l'ordre du jour du Conseil de sécurité au mois de novembre. La Chine et la Russie ont toutes les deux à poser leur veto. William O'Neill, est-ce qu'on sait pourquoi?
Ce n'était pas tout à fait, ils n'ont pas posé leur veto, ils ont demandé une étude.
Ils ont joué la montre l'office. Peut-être pour éviter de donner une réponse.
Oui, pour avoir une période d'étudier le problème. Alors maintenant, l'office, le bureau de secrétaire général doit présenter dans, je crois, maintenant un mois et demi, une étude avec d'options, plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer avec le MSAS? Est-ce qu'on va faire une opération maintenant de la paix? Est-ce qu'il y a une troisième option, quatrième, cinquième, qui sait? C'est ça l'état de choses maintenant. Ils ne sont pas tout à fait prêts, c'est sûr, ouverts à l'option maintien de la paix, la Russie et la Chine, pour plusieurs raisons. Ça, vraiment, des fois, ce n'est pas Haïti qui est en jeu. C'est d'autres problèmes au Conseil de sécurité parmi les cinq, surtout entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Mais je crois que c'est toujours sous l'étude. Ce qui est intéressant, et les Haïtiens avec qui je parle veulent avoir, pour eux, il faut vivre. Ils m'ont dit, il faut vivre, il faut nous sauver. N'importe quoi, n'importe opération maintien de la paix, MSSAS, autre chose, pour eux, de leur sauver de l'emprise des gangs, c'est l'essentiel. Et maintenant, on va étudier et on va voir si c'est possible d'autres options. Mais la MSSAS, c'est vraiment en difficulté. Et je dis toujours, le temps joue en faveur des gangs. Le temps ne joue pas en faveur des Haïtiens, des droits de l'homme et les autres. Et plus que ça traîne, vraiment, comme j'ai dit au commencement, on est tout près de l'abysse. C'est vraiment, je suis très inquiété par la situation maintenant.
On va reparler de cette opération de maintien de la paix dans quelques instants. William O'Neill, Frédéric Thomas, on se retrouve juste après le journal sur RFI.
Thank you. Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de Géopolitique sur RFI. Géopolitique consacrée cette semaine au rôle de la communauté internationale dans la résolution de la crise haïtienne. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec William O'Neill. Rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert des Nations Unies sur la situation en Haïti et en duplex de Bruxelles avec nous, toujours Frédéric Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue chargé d'études au CETRI et auteur de l'ouvrage « Haïti, notre dette ». On parlait juste avant le journal de la transformation potentielle de cette intervention sous l'égide des Nations Unies en Haïti, emmenée par le Kenya, une potentielle transformation en opération de maintien de la paix avec des casques bleus, une opération que les Haïtiens appelleraient de leurs voeux, selon vous, William O'Neill. Et une question pour vous, Frédéric Thomas, est-ce que cette opération de maintien de la paix serait souhaitable? Et est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un tournant à ce niveau-là après l'échec de la MINUSTA qui avait apporté, on s'en souvient, l'épidémie de choléra en Haïti?
Non, malheureusement, il y a toujours des reconnaissances partielles des erreurs passées, mais on est amené à reproduire les mêmes politiques. Et donc là, la volonté de faire de la mission actuelle une mission onusienne, c'est essentiellement pour régler le problème du financement de cette mission, lui donner un petit peu plus de légitimité. Mais ça ne règle pas la question de son efficacité et encore moins la question de elle va venir en appui de quelles institutions, avec quelle crédibilité, avec quelle légitimité. Est-ce que on va pas être à nouveau dans un contournement des acteurs haïtiens et d'affaiblissement des institutions publiques qui ont entraîné le pays dans la crise actuelle?
Le fait que les Haïtiens aient, semble-t-il, changé d'avis, peut-être, et voient cette opération de maintien de la paix comme quelque chose, finalement, peut-être une solution de dernier recours, est-ce que ça vous surprend?
Non, mais je pense que les avis sont beaucoup plus contrastés. Donc, il y a, de fait, un désespoir. On se tourne vers n'importe quel type de solution parce que, voilà, on est confronté à une situation désespérée avec une extension des bandes armées. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne croient pas, parce qu'il faut rappeler que l'appel à une mission internationale a été faite par le gouvernement d'Ariel Henry, qui n'avait pas été élu, qui manquait de toute crédibilité, il y a déjà 2 ans. Et donc, on est 2 ans plus tard, on a 400 personnes. L'ambassadeur des États-Unis a annoncé dimanche que 600 autres personnes allaient rejoindre dans les prochaines semaines cette mission. Et peut-être que là, on va encore dire que c'est pas suffisant. Puis on aura peut-être 2500, ce sera pas encore suffisant, etc. Donc on sent qu'on est dans une fuite en avant parce qu'on est incapable, qu'on ne veut pas soulever les autres problèmes qui sont encore une fois ceux de l'embargo sur les armes, de l'impunité, du renforcement des institutions. Venir en appui d'une police et d'un gouvernement, si cette police et ce gouvernement ne sont pas légitimes, ne répondent pas aux revendications de la population haïtienne, n'a pas beaucoup de sens.
On se pose la question depuis le début de cette émission aussi du rôle de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti, de l'action ou de l'inaction. Je vous propose d'écouter les propos du géographe Jean-Marie Théoda, interrogé l'année dernière, il y a quasiment un an, jour pour jour, sur le désintérêt de cette communauté internationale vis-à-vis d'Haïti.
Pour la communauté internationale aujourd'hui, Haïti est plutôt un nœud de problème. C'est bien pour cela que d'ailleurs on ne sait pas comment le résoudre, par quel bout le prendre, et surtout que personne n'a envie d'intervenir en Haïti. Et dites-vous bien que s'il y avait de l'or, de l'argent, du pétrole ou du gaz à gagner, il y a longtemps que l'on entendrait des bruits de bottes américaines, françaises ou canadiennes sur le sol haïtien, parce qu'il y aurait effectivement quelque chose à y gagner. Il n'y a aucun avantage matériel à occuper ce pays, à venir dépenser donc de l'argent pour aider à le reconstruire. Et d'autre part, cette élite qui a longtemps vécu avec le soutien de l'international, aujourd'hui, elle a totalement déserté le pays. En d'autres termes, son avenir n'est plus en Haïti, mais désormais lié à cette communauté internationale qui l'a soutenue pendant des décennies, pour ne pas dire pendant tout un siècle, depuis au moins l'occupation de 1915. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Haïti se retrouve comme un citron que l'on a tellement pressé qu'il ne reste plus que le zeste entre les mains de la population.
Une réaction, William O'Neill, au propos de Jean-Marie Théoda?
Oui, je crois qu'elle a raison. Haïti est toujours un pays on ne comprend pas qu'est-ce qu'on va faire depuis l'indépendance. C'est ça, je crois. Ça date depuis 1804, quand Haïti a battu Napoléon et la France. Et c'était la première république noire dans l'histoire du monde, le premier pays dans l'histoire du monde d'abolir l'esclavage. Vraiment, on doit beaucoup envers Haïti pour les droits humains. La situation des droits humains, Haïti était parmi les premiers pour battre pour l'égalité des races. Donc, et c'était inacceptable, surtout pour les États-Unis à cette époque-là, avec notre système d'esclavage et pour tout le reste du monde. Donc, ça fait 220 ans maintenant qu'Haïti était vraiment à l'écart, était vu comme avec beaucoup de soupçons. Vraiment, c'était difficile dès le commencement et ça persiste. Mais quand même, elle est là, Haïti est là et c'est à 1h30 de vol de Miami. Donc, c'est jusqu'à nos côtes. C'est inacceptable qu'on a une situation aussi déplorable à côté d'un pays le plus riche du monde et des autres pays qui se développent à côté de la République dominicaine. C'est vraiment triste, mais c'est pas fini. Haïti, les Haïtiens avec qui je travaille, sont toujours combattants. Ils luttent pour la liberté, les droits. Et c'est vraiment admirable et on ne peut pas les laisser. Mais vraiment, sur le plan géopolitique, comme le titre de votre émission, Haïti ne joue pas un rôle clé comme la Syrie, l'Ukraine ou les autres gens maintenant.
Et pourtant, il est au centre des discussions à l'échelle internationale. Et il faut dire qu'il y a un paradoxe aussi, Frédéric Thomas, puisque on l'a entendu dans les propos de Jean-Marie Théodat, personne ne veut intervenir en Haïti, personne n'a intérêt à le faire. D'abord, c'est risqué, et puis il n'y a pas grand intérêt économique aussi à intervenir. Les États-Unis, on l'a compris, le font parce que géographiquement, ça se trouve juste à côté des côtes de la Floride. Et pourtant, vous parliez aussi d'ingérence de la part des États-Unis. Alors, on situe où? Dans une intervention, trop d'intervention ou pas assez?
Non, je pense que le problème, malheureusement, d'Haïti, c'est pas que la communauté internationale n'intervienne pas, c'est qu'elle intervient mal. Au cours de ces 40 dernières années, il n'y a pas une crise qui ait traversé Haïti dans laquelle, directement ou indirectement, les États-Unis ne soient pas intervenus. Monsieur O'Neill l'a rappelé, Haïti est à 1h30 de vol de Miami. Il se trouve entre Cuba et le Venezuela. Donc, pour les États-Unis, la situation en Haïti est une question de sécurité nationale dans laquelle ils interviennent, qu'ils veulent contrôler. Il y a une dépendance complète de Haïti en termes économiques vis-à-vis des États-Unis, mais aussi en termes politiques. Et donc, malheureusement, cette influence, cette ingérence américaine, elle est renforcée par le fait que l'ensemble des pays sur la scène internationale ne contestent pas aux États-Unis ce droit, en quelque sorte, d'intervenir en Haïti. On lui accorde une forme de droit néocolonial qui n'est contesté par aucun pays. Et donc ça, c'est aussi le véritable problème. Je voudrais aussi rajouter à propos de Monsieur Théodat, je pense qu'aussi une difficulté, c'est qu'on a un regard souvent folklorique sur la situation en Haïti. Mais Haïti n'est pas un pays maudit. C'est pas un cas à part, c'est un cas extrême. Et c'est le marqueur de l'échec de la diplomatie internationale et de notre lâcheté.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Qui est-ce que vous verriez, vous, Frédéric Thomas, se dresser contre les États-Unis, justement, puisque ce sont eux qui interviennent mal, vous l'avez dit, et que tout le monde laisse faire? Est-ce que justement, dans ce jeu de cartes international, avec la puissance de la Russie, par exemple, ou de la Chine, on ne peut pas imaginer que ce soit ces puissances-là qui barrent la route aux Américains?
Idéalement, il faudrait que ça soit des institutions régionales, donc des pays des Caraïbes et d'Amérique latine. Malheureusement, on le voit, il y a une faiblesse d'institutions régionales, de politiques régionales. Certains pays, la CARICOM, tentent de jouer un rôle dans la crise actuelle. La Colombie, le Brésil ont aussi pris des positions essentiellement rhétoriques ou de soutien à une solution haïtienne à la crise. Mais il n'y a pas de bloc régional qui arrive à contester aux États-Unis son ingérence. Et donc ça, c'est aussi la situation actuelle démontre la faiblesse des institutions régionales latino-américaines.
C'est justement vers la région que s'est tourné Leslie Voltaire, le président du conseil de transition du pays, pour solliciter l'assistance de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA. C'était tout récemment à Caracas.
Estamos llamando Nous demandons l'aide de nos frères de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Une aide pour la sécurité de notre pays, mais aussi une assistance alimentaire. Parce qu'il y a 6 millions d'Haïtiens qui meurent de faim en cette période de Noël.
Est-ce que ça peut fonctionner, William O'Neill, une main tendue vers cette Alliance bolivarienne?
Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment. C'est la première fois que j'ai entendu que ça existe, cette organisation. Vraiment, c'est. Je ne sais pas. Seulement, je dois ajouter que en Haïti, il y avait un grand problème, un scandale avec Petrocaribe.
J'allais y venir justement. Oui. Alors, pour donner un petit peu de contexte, avant que vous poursuiviez, donc effectivement, le scandale Petrocaribe. Donc, c'est des centaines, on peut dire, de millions de dollars qui ont été prêtés pendant près de 11 ans par le Venezuela dans le cadre d'un programme de développement des pays de la Caraïbe et qui se sont volatilisés, ces dollars. On peut dire aussi que c'est ça qui freine peut-être les pays voisins à tendre la main à Haïti si tout ce qu'on donne finalement finit dans les poches de ceux qui gouvernent.
Exactement, c'est ça le problème. On a parlé beaucoup des fautes de la communauté internationale et je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, la corruption. Les mauvaises pratiques et vraiment le comportement des politiciens et des oligarques en Haïti qui ont joué avec cet argent-là. Et ça s'explique aussi le problème que Moïse avait. Il y avait une bataille sur cet argent-là entre Moïse et les hommes de Martelly et les autres. Je ne peux pas entrer dans tous ces détails, mais vraiment, c'était un scandale, c'était terrible. On a gaspillé peut-être 1 billion. On ne sait pas vraiment, c'est ça le problème. On ne connaît pas vraiment le chiffre exact, mais on n'a pas construit les écoles, les routes, les hôpitaux, etc. avec cet argent-là. Où est cet argent? Il y a un bon film en créole, Kiko Te Cobla. En créole, ça veut dire où est l'argent? Où est l'argent de Petrocaribe? Donc j'ai peur, j'ai des doutes, mais vraiment, je ne peux pas faire plus de commentaires sur cette initiative annoncée hier par Leslie.
Alors Frédéric Thomas, puisque ces hommes en cravate, comme l'appelait aussi William O'Neill tout à l'heure, ne sont pas forcément gages de confiance auprès des voisins qui pourraient tendre une main vers Haïti, est-ce qu'on peut espérer que cette résolution de crise passe par la société civile, de société civile à société civile ou de gouvernement voisin à société civile? Ça pourrait fonctionner comme ça?
Oui, en partie, mais il faut faire attention à ce que ce passage par la société civile ne soit pas à nouveau une manière de contourner les acteurs publics haïtiens et d'affaiblir la construction d'une souveraineté nationale et populaire. La société civile en Haïti, elle appelle à un renforcement de la souveraineté, à sortir de cette ingérence, de ce cycle infernal de crise, de catastrophe et d'intervention extérieure, à renforcer les institutions publiques. Il faut se rappeler que la situation actuelle est le fruit du soulèvement populaire de 2018-2019, justement contre la corruption et l'impunité, et que la réponse du pouvoir a été la répression et l'instrumentalisation des bandes armées pour casser le mouvement social. Or, à l'heure actuelle, 4, 5, 6 ans après, on a vu un mouvement social qui était largement cassé et ces bandes armées qui ont réussi à s'autonomiser en grande partie et à gagner territoire. Donc, il faut sortir de cette matrice politique de soutenir toujours les mêmes personnes qui ont des intérêts qui ne répondent pas aux intérêts de la population et qui ne rendent des comptes qu'à la communauté internationale. L'espoir, il est essentiellement les organisations féministes, les organisations syndicales, les ONG, etc., qui portent une volonté de transformation, de renforcement des institutions publiques en Haïti et d'en finir avec l'impunité.
Et ces ONG, justement, ou ces organisations de défense des droits de l'homme, ces syndicats, ces organisations féministes, est-ce que leur action, leur pression vous semble suffisante aujourd'hui? Vous avez l'impression que c'est un combat qui est mené à bras-le-corps, qui est global et qui fonctionne?
Mais il est global, il est très courageux, il est admirable, mais il a été frappé de plein fouet par la répression, par la violence. Il faut rappeler qu'il y avait en 2021, à la suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y avait sur la table une proposition d'une très large convergence d'acteurs et de la société civile qui appelait une transition de rupture. Et cette proposition a été balayée d'un revers de la main par la communauté internationale qui a soutenu un gouvernement d'Ariel Henry au nom de l'urgence d'organiser des élections. plus de 2 ans après, au vu de l'échec total de ce gouvernement, on a dû l'écarter et mettre en place une transition qu'on avait refusée auparavant. Donc malheureusement, encore une fois, la communauté internationale est face à ses propres contradictions. Elle a participé de l'affaiblissement des acteurs de la société civile et elle se trouve à nouveau seule à seule avec des interlocuteurs dont la plupart se retrouvent ou sont liés aux personnes qui sont sur les listes de sanctions.
Mais c'est justement ce qui ressortait aussi des propos de Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains en Haïti. C'est le serpent qui se mord la queue.
Il faut mettre le doigt sur le cynisme de la communauté internationale. Aujourd'hui, quand nous leur parlons, parce que justement nous leur parlons et nous leur disons ce qui se passe en Haïti, que ce soit par des rapports, par des communiqués de presse ou même dans des rencontres, nous leur expliquons la situation et eux, de la communauté internationale, ils nous répondent qu'il leur faut des interlocuteurs et que sans interlocuteurs, c'est le chaos. Or, aujourd'hui, justement, c'est même pas seulement lui, c'est qu'on se rend compte que de tout temps, la communauté internationale a toujours choisi des interlocuteurs impliqués dans des violations de droits humains. Et on en a parlé tout à l'heure, il faut à un certain moment faire une évaluation. Une évaluation de toutes ces interventions qui ont été faites en Haïti, une évaluation de la coopération entre Haïti et la communauté internationale. Parce qu'à un certain moment, il faut se le dire, est-ce qu'on sortira vraiment du marasme avec cette communauté internationale? Nous, on ne le pense pas.
William O'Neill, comment est-ce que cette communauté internationale dont parle Marie-Rosie Auguste du Sénat pourrait corriger peut-être ce qu'elle a produit? Et comment est-ce qu'on pourrait avoir un interlocuteur qu'elle considère digne de dialogue? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit se retirer?
Non, j'espère qu'on écoutait Rosie et ce qu'elle a dit. Elle a raison. Je crois que le problème maintenant, le problème principal, c'est la mainmise des gangs sur la quasi-totalité de la capitale. La RNDDH, une organisation incroyable. Il y a d'autres, plusieurs, une société civile très vivante et courageuse, mais c'est difficile de travailler, c'est difficile pour eux même de faire le travail, de bouger, d'avoir les réunions. Et c'est difficile de les joindre maintenant. Je sais que mes collègues chez le Bureau des Nations Unies en Haïti, ils sont réduits à 20% de staff à cause de l'insécurité, de la violence. Donc il faut maintenir ces lignes de communication, il faut continuer à les écouter, de les soutenir. Mais sans sécurité, sans la possibilité de vivre, c'est difficile d'imaginer les prochaines étapes qui sont les projets essentiels pour le développement, pour l'aide humanitaire. Il y a 750 000 déplacés en Haïti maintenant. C'est un pourcentage énorme de la population. Ils sont sans abri, sans nourriture, sans éducation, sans eau, sans tout. C'est vraiment dramatique. Je ne peux pas exagérer comment c'est difficile de survivre une journée en Haïti, et surtout à Port-au-Prince, pour la grande majorité de la population. Si on ne règle pas cette question de sécurité, toutes les autres questions ne seront jamais réglées. Première chose, c'est la sécurité. Et tout de suite après, le moment où c'est possible d'aller à Cité Soleil, je ne peux pas y aller quand je visite Haïti. Je ne peux pas visiter les institutions là-bas, parce que c'est trop dangereux. C'est la même chose pour toutes les autres. Vous avez dit MSF. MSF, qui travaille dans des situations très, très difficiles, ont suspendu les opérations. C'est vraiment urgent qu'on règle cette situation de sécurité pour laisser l'espace et le temps et la possibilité de régler les problèmes de corruption, impunité, système justice, etc., qui sont vraiment aussi prioritaires. Mais sans sécurité, on ne peut rien faire.
William O'Neill, Frédéric Thomas, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation dans Géopolitique. Merci également à Mathias Golchani, Cécile Lavolo et à Vincent Souriau du service international de RFI pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute de RFI et bon week-end à tous.